Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse, ce matin avec Bertille Bayard, rédactrice en chef au Figaro. Bonjour Bertille.
Bonjour.
Et Charles de Boissezon, responsable mondial de la stratégie action de Société Générale CIB. Merci à tous les deux d'être dans ce club de la bourse. Avec Étienne Brack, évidemment. Bon, on va inverser les thèmes qu'on avait prévus parce que c'est cette nouvelle qui a beaucoup choqué Étienne dans le secteur. Ben oui, évidemment, KNDS qui devait être la plus grosse introduction à Paris dans le secteur de la défense européenne, qui reporte cette introduction en bourse. Charles de Boissezon, une première réaction sur cette décision. C'est les conditions de marché qui sont défavorables, disent-ils.
Conditions de marché, peut-être aussi la performance générale du secteur de la défense qui était un petit peu molle ces derniers temps, mais il faut replacer dans un contexte plus large. Le premier, c'est que les performances avaient été extrêmement fortes les deux années précédentes. Et l'autre, c'est que je crois qu'il y a, de manière générale, c'est pareil pour la technologie aux US, un élargissement des performances, une diversification. Et nous, chez Société Générale, nous pensons notamment que le thème de la souveraineté doit s'entendre de façon plus large. Donc, c'est peut-être un bon moment de diversifier en dehors dans la défense. Ceci étant dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Les gens ont eu tendance à se dire que des annonces de paix font que ça devrait se calmer. Je pense l'inverse. Je pense qu'au contraire...
On multiplie les conflits depuis 2022.
On multiplie les conflits. Il y a un désengagement américain. Mais quand on se dit, Hormuz, c'est en train de se régler. L'Ukraine, à un moment, ça se réglera. Israël, à un moment, ça se réglera. Donc, on dépense moins. C'est probablement, de notre point de vue, une erreur.
Bertie,
c'était vraiment l'introduction en bourse à pas rater, quoi. Elle était tellement symbolique, donc effectivement, il y avait une question de timing, mais cette question de timing, elle aurait pu être, je pense, un petit peu mieux anticipée. Enfin, je veux dire, c'est... il faudrait faire un petit peu l'autopsie de cet échec, mais c'est un échec d'abord pour le franco-allemand, et on en a besoin, et c'est un échec de plus, et ça commence vraiment à faire beaucoup et à bien indiquer qu'il y a un problème assez profond dans cette relation franco-allemande. Donc, c'est une sorte d'illustration par le marché de cette difficulté de la relation entre les deux pays. C'est évidemment un échec européen. C'est peut-être l'échec d'un nouvel Airbus. C'est-à-dire que ces Airbus dont les politiques veulent absolument en créer partout, etc., j'ai l'impression que le marché, il y croit beaucoup moins que les politiques. Mmh. C'est-à-dire la perspective d'aller investir dans une entreprise dont deux États, en l'occurrence la France et l'Allemagne, sont actionnaires à parité, avec des golden shares, avec des obligations réciproques dans tous les sens susceptibles, on va dire, d'handicaper la marche en avant de l'entreprise. Manifestement, les investisseurs sont un peu moins enthousiastes que les politiques sur ce genre de montage. Et puis, c'est un échec pour l'Europe des marchés de capitaux, quoi. C'est-à-dire qu'on avait enfin une introduction en bourse assez importante.
Grosse valorisation.
Grosse valorisation sur deux places européennes, etc. Et ça rate, quoi. Évidemment, le contraste avec ce qui est... Comme on sort du buzz de l'introduction en bourse de SpaceX, voilà, c'est quand même assez déroutant. Et puis, peut-être un dernier point pour sa vue, enfin... Pour l'anecdote, c'est que c'est encore une occasion pour l'État actionnaire français de vendre une participation et toujours pas. Toujours pas.
Étienne ?
La France devait avoir 40%, l'Allemagne 40%, il fallait mettre 20% en bourse. Donc même 20%, visiblement, c'était difficile à mettre en œuvre. Alors c'était uniquement réservé aux investisseurs professionnels. Hein. Le retail, les particuliers ne pouvaient pas participer à cette introduction en bourse. Il devait y avoir une double cotation à Paris, mais aussi à Francfort. Pour rappel, KNDS fabrique notamment des chars. Alors, c'est vrai que le secteur de la défense, oui, comme a souligné Charles, a beaucoup boosté en 2022 avec le conflit en Ukraine. Et puis là, depuis un an, ça vivote un petit peu. Surtout qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. On en parlait ce matin dans la matinale. Rheinmetall, contrat de 12 milliards sur les frégates, rayé du jour au lendemain par l'Allemagne qui estime c'est trop long, c'est trop cher. Finalement, on va changer de projet. On va pas faire appel à Rheinmetall. Moins 18% quand même en l'espace d'une séance. C'est pas petit, Rheinmetall. Vous avez également le ministre de la Défense britannique. Alors certes, il y a les problèmes à Londres que l'on connaît, mais quand même, il a claqué la porte il y a un mois en disant on me donne pas les moyens de défendre le pays. J'ai pas assez d'argent pour répondre aux demandes de l'OTAN. Et donc, tout cela, ça pose également des questions. C'est vrai qu'on a moins de croissance, des déficits qui sont de plus en plus élevés. Et à la fin, la question, c'est de se dire, est-ce que la promesse du politique de dire on va dépenser plus dans la défense va vraiment se réaliser et va se voir dans les carnets de commandes? Aujourd'hui, la bourse, elle en doute. Et quand vous regardez le secteur de la défense depuis le début de l'année, il ne fait pas grand-chose au sens large.
Et Eric Trappier disait ce matin, lui, il parlait plus d'autres partenariats. Le SCAF, notamment, qui a échoué. Il a l'air d'être pas du tout avoir compris pourquoi on avait fait toutes ces promesses politiques, Bertille.
En tout cas, il y a eu beaucoup de promesses politiques sur une très longue période. Et donc aujourd'hui, il faut trouver la bonne méthode pour avancer sur, à la fois sur l'effort de réarmement et donc de mise en route des industriels dans cet effort. Et puis sur les bonnes architectures, en se disant que... Voilà, il y a aussi des choses qui marchent. Hein, quand on va regarder, quand la Suède commande des frégates à la France, voilà, on voit qu'il y a des grandes entreprises comme ça de spécialité sur lesquelles on a des commandes européennes qui se déclenchent. Et là, c'est beaucoup plus positif. Et ça va beaucoup plus vite probablement que ces reconfigurations qui sont très compliquées.
Autre thème ce matin dans le club de la Bourse, c'est le premier pas de Kevin Warsh, le nouveau patron de la réserve fédérale américaine. Alors, on les surveille hein, vraiment dans le détail, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, Étienne Braque, parce que là, il s'est exprimé hier. Il a dit à la fois que l'inflation était trop haute, il a dit aussi qu'il ne ferait pas exactement ce qu'on voulait de lui.
Oui, il y avait beaucoup d'interrogations ces dernières semaines, hein, parce qu'il a été nommé par Donald Trump sur est-ce qu'il va être à la botte de Donald Trump ou pas. Donald Trump, qui, souvenez-vous, surnommé Jerome Powell, Jerome Too Late, hein, parce qu'il ne baissait pas les taux comme le souhaitait la Maison-Blanche. Donc là, il est un petit peu dans un exercice de communication. Hein, c'était la première fois qu'il parlait publiquement, en dehors bien sûr de la dernière réunion de la Fed à l'occasion du symposium de Sintra. Et donc, forcément, hein, il a dit que l'inflation était trop élevée. Elle est sur des niveaux de 2023. Alors certes, elle a tendance un petit peu à refluer ces dernières semaines avec la baisse des cours du pétrole. Mais là, pour l'instant, il essaye de montrer qu'il est indépendant et qu'il tient la barque.
Est-ce qu'il va tenir longtemps, Charles de Boissezon, d'après vous ?
La prudence est toujours de mise hein, quant à nos capacités à anticiper les politiques des banques centrales. Simplement, pour nous, quand je regarde la réaction de marché action, je dirais qu'elle est pour l'instant d'ordre 2. L'ordre principal, ce sont les profits des entreprises. La Fed a plus un impact sur les multiples, le PE que l'on applique à ces profits-là. Et pour l'instant, il y avait une petite crainte sur la partie longue de la courbe qui commençait à rendre les actifs equity, actions, un petit peu chers. Ce sera peut-être un souci un peu plus tard lorsque tous ces hyperscalers vont devoir aller taper le marché de la dette pour pouvoir financer leurs dépenses d'investissement massives, puisqu'on entre dans un déficit de free cash flow. C'est plutôt ça le point d'attention sur le marché qui me concerne plus particulièrement. Quant à la Fed, qu'il joue sa propre partition, je pense que c'était attendu, c'est bien. Je pense qu'il la joue quand même assez bien. C'est un peu comme Mozart. Hein. Dans Mozart, même le silence, c'est du Mozart. C'est un peu pareil pour la Fed, il faut aussi écouter les silences. Et un peu de silence aux États-Unis, parfois, ça ne fait pas de mal.
Oui, Kevin Warsh a choisi effectivement de moins expliquer hein, ce qu'il allait faire. Est-ce que pour autant, ça va le protéger des humeurs de Donald Trump, Bertille ?
Ça, on verra effectivement comment les choses évoluent et ça dépendra beaucoup de la persistance de la tension sur les prix ou pas. Et c'est vrai que ce qui s'est passé sur le prix du pétrole, de ce point de vue-là, est assez fondamental. Et objectivement, a surpris tout le monde. Personne n'envisageait que le retour au prix du pétrole d'avant-guerre soit aussi rapide. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même des évolutions sur lesquelles il y a énormément d'incertitudes qui pèsent. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours, c'est qu'il a réinsisté sur ce qui fait partie un peu de sa marque de fabrique historique, qui est ses propos sur le bilan de la Fed. C'est-à-dire que voilà, il s'est un petit peu dégagé de la question des taux et de l'évolution des taux, puisqu'il ne veut pas donner de guidance. En revanche, il a pas mal insisté sur la question du rôle de la Fed de façon générale, du fait que les banques centrales avaient pris une importance et un rôle trop important au-delà de la simple gestion des crises financières, et que donc il y avait quelque chose à faire sur le bilan. Ça fait partie de ces groupes de travail de réfléchir à ce bilan de la Fed, dont on a vu qu'il avait évolué de façon absolument énorme depuis de crise en crise. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Donc, il est sur une philosophie de retrait un petit peu de la Fed, du marché, au sens où on verra ce qui se passera sur les différentes évolutions, et notamment sur l'intelligence artificielle, etc. Mais en tout cas, la Fed dit... C'est une façon de dire, la Fed ne va pas venir éponger toutes les bêtises que vous allez éventuellement commettre dans les prochains mois.
Meta, on en parlait tout à l'heure, Étienne a pris plus de 8% en bourse et pourrait se lancer dans la course au cloud.
C'était une piste qui était évoquée lors de l'Assemblée Générale de Meta. C'était fin mai par Mark Zuckerberg. Avec une question, c'est de se dire, un petit peu comme chez Amazon, on a des data centers, on les fait tourner pour nous. Est-ce que demain, on ne pourrait pas également les mettre à la disposition de certains clients? Parce qu'aujourd'hui, il y a une course autour des data centers. On en parle tous les jours sur ce plateau. Entre le moment où vous pensez avoir des capacités de calcul et où vous les avez vraiment opérationnellement, il se passe de longs mois, voire parfois plusieurs trimestres. Ça rassurait le marché, plus 8%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur Meta, c'est l'une des plus fortes baisses parmi les GAFAM depuis le début de l'année. Le titre est quand même en baisse de plus de 15%, quand Wall Street, grosso modo, les indices gagnent entre 8 et 12%, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, à court terme, le marché se dit ça serait un moyen de faire rentrer de l'argent et financer notamment les énormes CAPEX, puisque pour rappel, vous avez un groupe qui prévoit d'investir 130 milliards cette année.
Charles et Bertil, la concurrence entre les acteurs américains se renforce avec un risque de guerre des prix. Qui veut réagir? Charles?
C'est clair qu'il y a une guerre des prix. C'est clair qu'il y a probablement, pour l'instant, une bulle des marges plus qu'une bulle des valorisations, avec un transfert massif. Globalement, on est en train de parler de 200 milliards de CAPEX qui partent des poches de l'un pour aller vers les poches de l'autre. Personnellement, je préfère qu'on dépense dans du CAPEX que dans du rachat d'actions, puisqu'on a eu de la croissance des bénéfices par action qui était plutôt de l'ingénierie financière. Honnêtement, je n'ai pas de quoi dépenser, donc je rachète mes titres. Le marché aime bien, mais enfin, on pense bien qu'industriellement, ce n'est pas forcément terrible. Là, on voit des augmentations de prix. Chez Apple, on commence à avoir des répercussions assez massives sur votre iPhone, votre iPad & Co. Si ça existe encore, les iPads, d'ailleurs, je ne sais plus.
Oui.
ou les iMac. Il y a clairement une guerre des prix, mais on voit qu'il y a une demande pour l'instant qui est massive et l'offre n'y survient pas. Et quand on regarde les États-Unis, on voit des hausses massives ou sur certains titres en Europe, mais en Corée, on le voit de façon encore plus flagrante. Avec un petit bémol néanmoins, c'est qu'on a des flux retail qui achètent des produits très leveragés sur certains de ces titres en Corée. Et moi, j'aurais plutôt tendance à avoir une certaine méfiance sur certaines expositions au Kospi, parce qu'il y a tellement d'argent du retail qui rentre là-dedans en achetant des ETF sur une boîte leveragée. Alors, on est quand même loin du fonds diversifié. Ça, pour moi, ça crée plus une bulle d'engouement du retail. C'est plutôt ça mon point de souci. Sur le reste, c'est clair qu'il y a une guerre des prix, mais pour l'instant, les barrières d'entrée sont quand même massives. Sinon, on aurait plus d'acteurs en Europe pour jouer cette thématique-là. Alors, honnêtement, on en a quoi? 2,5-3. C'est ça le sujet. C'est tant qu'on n'a pas assez d'offres, honnêtement, vous fixez les prix.
Merci.
On a bien vu dans les propos, notamment hier à Sintra, chez les banquiers centraux et autres gendarmes financiers, combien il y avait une part d'inquiétude quand même face à ces phénomènes, et notamment du fait qu'on a de la dette des deux côtés aujourd'hui. Donc on a de la dette chez les hyperscalers maintenant qui pour financer leurs investissements et les gigantesques capex dont on parlait, et puis on a de la dette chez les investisseurs à la fois chez les particuliers et les institutionnels, avec beaucoup de leviers qui arrivent de ce côté-là aussi. Et donc ça fait quand même énormément d'argent qui est aujourd'hui suspendu aux perspectives de revenus, qui reste incertaine malgré tout. Et effectivement, une guerre des prix pourrait mettre en danger à l'avenir.
Étienne, pour finir, des inquiétudes qui se voient sur les cours de bourse. Wall Street délaisse en partie les GAFAM.
Regardez Microsoft, Meta, ces deux valeurs cèdent plus de 10% depuis le début de l'année, parce que ce sont typiquement des valeurs sur lesquelles il y a des inquiétudes. Ce sont des groupes qui dépensent beaucoup d'argent, et puis à court terme, des interrogations, notamment ce qui concerne Microsoft, qui a une part importante dans OpenAI, dans ChatGPT. On voit ces derniers mois qu'il y a vraiment une course de petits chevaux entre OpenAI et puis Claude. Et la bourse, comme l'a souligné Charles, en fait, aujourd'hui, elle achète l'argent, elle achète les acteurs où cet argent se déverse, c'est-à-dire l'argent qui se déverse dans les semi-conducteurs. Le Kospi fait x2 depuis le début de l'année. Vous êtes responsable de la stratégie action. Charles, c'est quoi aujourd'hui dans ce segment technologique les segments que vous préférez, même en termes géographiques, parce que l'Europe n'est pas en reste quand on voit le secteur des semi-conducteurs?
Alors, l'Europe n'est pas en reste, elle se paye quand même assez cher dans ce secteur-là. Donc, de manière générale, notre approche est plutôt de dire on achète, je pense pas que ce soit très anti-consensus, mais la chaîne de valeur. En gros, je vends des pelles et des piolets, c'est-à-dire plutôt sur la partie infrastructure, parce qu'à la fin, il faut quand même bien avoir physiquement. Le vrai sujet, en fait, c'est qu'il y a une pression sur les actifs physiques que nous n'avions pas connus avant. Et donc, il s'agit d'être exposé plutôt à ça. La question, comme l'évoquait Sandra ou Bertie, c'est à un moment, il va falloir voir s'il y a un bénéfice réel de toute cette IA dans la bottom line des entreprises. Pour nous, c'est probablement un sujet 2027, voire 2028. Pour le moment, on se concentre sur les premiers bénéficiaires, là où l'argent va être dépensé, dans des circuits, dans de l'électrification. Petit sujet éventuellement, c'est que c'est assez consensuel, toute cette thématique d'infrastructure, tout le monde est très long là-dessus. Personnellement, j'ai tendance à quand même être long des États-Unis. Encore, les valorisations ne sont finalement pas si élevées que ça, contrairement à la rareté de certaines valeurs qui poussent quelques titres en Corée, deux titres en Europe, allez, deux titres aussi.
On continuera à en discuter dans la demi-heure qui vient. Good Morning Market avec vous, Étienne Brack. Merci Bertille Bayard, rédactrice en chef au Figaro, et Charles de Boissezon, responsable mondial de la stratégie action de la Société Générale CIB.